Alors, sont donc auprès de moi aujourd'hui pour cette dernière séance du séminaire. Franck Lestringan, je les prends dans l'ordre dans lequel ils sont intervenus au cours du séminaire. Franck Lestringan, qui avait été le premier à parler en janvier. Jean-Louis Janel, qui était venu un peu plus vers le milieu. Et Jean Rouault, qui est venu il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps. Certains d'entre vous m'ont écrit pour me demander où ils pouvaient entendre, comment entendre les exposés qu'ils avaient manqués. Alors je sais qu'ils passent à un moment donné, enfin qu'ils sont accessibles sur France Culture à un moment donné, pas encore, vers le mois de juin. Bon, enfin, je ne sais pas que. Soyez vigilants. Je sais qu'ils sont. Qui sont disponibles à un moment donné sur France Culture si vous avez manqué l'un ou l'autre. Alors, ce que je voudrais faire rapidement pour commencer, c'est reprendre la suite de ces exposés à partir des quelques notes que j'avais et rapidement dégager un certain nombre de points dont nous pourrions parler, notamment à partir des trois exposés de ceux qui ont pu revenir aujourd'hui. Alors, Franck Lestringan avait fait le premier exposé dans lequel il y avait un certain nombre de points qui, à mon avis, étaient très importants pour réfléchir aujourd'hui à la question du témoignage. Et ce sont des points sur lesquels beaucoup des interventions sont revenues, me semble-t-il. Tu avais commencé par souligner la nécessité pour toute écriture de vie, de passer par la traversée de la mort et à partir de l'expérience du martyr, du sacrifice et du missionnaire. C'était en parlant de Gide et de « Si le grain ne meurt », son autobiographie. Et c'était, me semble-t-il, ce point assez important qui avait été ainsi souligné sur le rapport du témoignage du témoin, de la victime et du martyr. Et l'importance dans le Nouveau Testament et dans le christianisme du martyr comme témoin. Ensuite, tu avais parlé de cette histoire des martyrs, de ce martyrologe dans lequel consistait l'histoire de l'Église pour les historiens du protestantisme, et aussi cette volonté, alors je crois qu'on pourrait l'évoquer à propos de ce qu'avait dit Jean-Louis Janel également, de faire consister l'histoire en documents bruts, que l'histoire se réduise à la somme des témoignages. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qu'on a retrouvé dans beaucoup des interventions, ce rapport de l'histoire et du témoignage. Bernard Sèvres nous avait parlé de Montaigne. Le point très fort, et là aussi on y est revenu, moi ce que j'avais surtout retenu de ce très bel exposé de Bernard Sèvres, c'était le rapport du témoignage chez Montaigne et de l'expérience du magistrat. Peut-être que, enfin, ça, il me semble qu'on n'avait pas assez insisté sur cela. Sur la définition du témoignage comme preuve judiciaire et sur le recours chez Montaigne au témoignage en rapport avec ce qu'il avait appelé son habitus judiciaire. Et peut-être que nous n'avons pas assez insisté à la suite de cet exposé sur cette dimension-là. Puis l'autre dimension était évidemment celle de l'auto-attestation du témoignage de Montaigne pour échapper à ce grief d'insincérité qui est toujours fait à toute écriture de soi. L'écriture de soi, elle est toujours dans l'insincérité, dans la mauvaise foi. Et bon, ce sont les griefs qui sont élevés par Valéry à l'égard de Stendhal, par Sartre à l'égard du témoignage en général. Et chez Montaigne, une sorte de dodo-affirmation, et notamment l'affirmation que le témoignage modifie la personne, qui permet de, je dirais, revalider le témoignage. Il m'a semblé que la plupart des exposés avaient montré la très grande proximité du témoignage et de l'expérience de la mort. Et c'est ce que nous avons revu avec Mariella Di Maio, qui, elle, parlait donc de Stendhal et de l'expérience de la défaite de Russie dans les guerres napoléoniennes. Et ce qui l'a frappé et ce dont elle nous parlait, c'était au fond de l'absence de témoignage de Stendhal sur cette expérience fondatrice qui est celle de la traversée de la mort, qui est l'expérience de la mort. Et comment cette horreur de la fin de la campagne de Russie, la retraite de Russie, ne pouvait pas être relatée, au fond, ni dans les lettres, ni dans le journal. Alors que Stendhal l'a définie comme l'expérience fondatrice et l'expérience inaugurale. Chez Jean-Louis Janel, ensuite, moi, ce que j'avais beaucoup retenu, c'était la distinction qui était faite entre le témoignage historique et le témoignage du survivant, suivant l'idée que c'était aujourd'hui le survivant qui témoignait, ce qu'on avait revu dans votre exposé, comment on attend maintenant du survivant qu'il témoigne. Et en donnant à ce témoignage plus de valeur, plus d'authenticité qu'à celui des autres acteurs. Et vous l'aviez dit en particulier à propos du récit de la Shoah, quand on parle de témoignage aujourd'hui de ce genre littéraire, c'est à partir de cette expérience-là à laquelle beaucoup sont en effet revenus, notamment Jacques Rancière et puis Claude Lanzmann la dernière fois. C'est chez le survivant qu'on retrouverait aujourd'hui l'exemplarité éthique dont j'ai encore pu parler aujourd'hui comme celle de l'autorité des grands hommes. Il y aurait là, peut-être chez le martyr, comme tu l'avais dit, ou chez le survivant.
Le voyageur parfois.
Comment ?
Le voyageur parfois.
Et le voyageur parfois, oui. Comme survivant également. Cette exemplarité qui n'est plus celle des grands hommes. Svetlana Todorov nous avait parlé de Germaine Tillon. À ce propos, une petite remarque, quelqu'un était venu me demander la relation avec Charles Tillon, le ministre communiste à la fin de la guerre. Aucune, ça ne s'écrit pas pareil. Pas de confusion entre Charles Tillon et Germaine Tillon. Mais, mis à part ce point, au fond, il me semble que les exposés ne se sont pas beaucoup contredits. Il y a bien une ligne de force, puisque ce que j'ai retenu de l'exposé de Todorov, c'était comment, à partir d'un premier refus du récit, refus du vécu, dans les textes de Germaine Tillon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur son expérience des camps, qui était en quelque sorte bannie dans ses premiers écrits après la guerre, eh bien, comment, à partir de ce refus, et peu à peu, et seulement assez lentement, la valeur irréductible de cette expérience individuelle avait été reconnue et avait rendu nécessaire de se séparer de l'histoire telle qu'elle était écrite, hein, et avait engagé un autre récit de l'expérience, un récit de l'expérience telle qu'elle avait été vécue personnellement. Todorov nous disait que les prolongements étaient importants puisque ça menait Germaine Tillon à vouloir réviser l'ensemble de, quelque sorte, l'épistémologie des sciences humaines pour y intégrer toujours cette dimension de l'expérience subjective et de l'expérience vécue. Mais il ne faudrait peut-être pas que je les résume tous parce que ça prendra trop de temps. Je voudrais quand même dire un mot des suivants, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide. Henri Racimov, eh bien, je vois quelques phrases que j'ai notées qui, là aussi, sont proches de ce que disait Todorov. Hein. L'histoire piétine les morts. Il revient à la littérature de prendre en charge, disait-il, les noms des morts, de les sauver de la mort. Et je crois qu'il liait fortement cette volonté pour la littérature de prendre en charge, de désanonymiser les morts, il est lié à une expérience de seconde génération, hein, après une génération qui n'avait pas toujours témoigné ou qui avait refusé de témoigner. Hein. Et il évoquait la disparition d'un certain nombre de parents, membres de sa famille, dont on ne lui avait pas parlé, et c'était à partir en quelque sorte de cette absence de témoignage qu'il cherchait à reconstituer, non pas à reconstituer leur histoire, mais à réunir un certain nombre de reliques, au fond à écrire plutôt des légendes que de l'histoire, en hommage à ces morts ou à ces disparus. Il me semble que les dernières conférences, les trois dernières que nous avons eues, les trois exposés de Jacques Rancière, de Jean Rouault et de Claude Lanzmann, sont revenus. La semaine dernière, il a été beaucoup question avec Claude Lanzmann de cette nécessité d'incarner le témoignage. Ce qui rejoint un peu ce que tu disais la première fois. La nécessité pour le témoignage d'être incarné. Rancière nous en avait parlé également. Hein. Je crois également Annie Ernaux, même si elle pensait, elle, à un autre témoignage, à un témoignage d'époque, elle parlait de la présence du temps dans le corps. Cette dimension de l'incarnation du témoin était également très importante. Chez Rancière, il y avait beaucoup d'insistance sur le corps du témoin, et ce qui rejoint ce que Franck Lestringhan disait au début de l'incarnation et du martyr. Rancière nous avait parlé de l'autorité des témoins muets, du vrai témoin comme témoin muet, ce qu'on a revu dans les extraits de Shoah que nous a montré Claude Lanzmann la semaine passée, où l'authenticité du témoignage est avérée dans le moment d'aphasie. C'est la présence du corps qui ne peut plus parler, qui en quelque sorte est la signature du témoignage. L'aphasie, le mutisme, Et c'est là où on a quelque chose comme le document brut qui est là. Jean Rouault, lui, nous a parlé de la présence du corps souffrant dans la littérature, la présence de plus en plus grande de ce corps souffrant qui était exclu de la littérature classique, avec l'idée que vous avez dit, j'ai retenu cette phrase, là où est la souffrance, là est la littérature. Et ce qui fait que aujourd'hui, elle est en effet du côté de ce témoignage, et que vous disiez que toute littérature qui escamote ce corps souffrant peut être soupçonnée. Et je crois que ça rejoint cette idée que c'est à la littérature de prendre en charge ce qui est ignoré par l'histoire, ce qui fait du témoignage non plus un complément, non plus un document, non plus un complément de l'histoire, mais en effet un genre littéraire. Voilà, moi, les questions que j'ai, les thèmes, les grands thèmes que j'ai retenus à travers ces différents exposés. Le rapport du témoignage avec les mémoires, le rapport du témoignage avec le martyr, le rapport du témoignage avec la mort, et puis le rapport du témoignage avec l'histoire et la littérature. Alors, je ne sais pas si vous voulez les uns et les autres, mais peut-être que Franck, tu peux reparler de cette réflexion sur le martyr qui m'avait semblé assez essentiel au début.
Merci Antoine, tu as parfaitement résumé ce que j'ai dit, alors il me reste peu de choses à ajouter. Je voudrais simplement rappeler, peut-être pour rebondir sur la phrase de Jean Rouault, là où est la souffrance, là est la littérature, c'est peut-être une légère différence, enfin légère, avec le récit de martyr. Parce que dans le martyr, bien sûr, il y a le spectacle visible de la souffrance, mais ce qui compte au fond, c'est ce qu'il y a au-delà de la souffrance, c'est-à-dire la cause. Il y a le fameux adage de saint Augustin qui est partout répété, aussi bien par les catholiques que les protestants, au temps des guerres de religion et bien après. Ce n'est pas la peine, mais la cause qui fait le martyr. Martyrem non facit poena, sed causa. Alors bien sûr, le corps est présent, la souffrance est présente, mais encore faut-il discerner derrière ce spectacle, en quelque sorte, le sens qui est caché, qui est incarné justement. Et c'est à cela que s'emploie l'auteur de Martyrologe. Alors, pour rebondir aussi sur une remarque que tu as faite, ce sens finalement du martyr, qui est obtenu par la mort, mais la mort ne suffit pas, il ne suffit pas de mourir dans des convulsions atroces, dans des supplices abominables, pour être un martyr. Et puis martyr de quoi ? On peut être martyr du diable ou martyr de Dieu. Il faut encore donc que la bonne cause soit attestée, et pour cela, il faut effectivement un procès. Effectivement, il faut instruire une sorte de procès et recueillir les archives. Pendant les guerres de religion, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est que les protestants souvent avaient des complices, des intelligences dans la place et volaient donc les sacs de procès dans les greffes des tribunaux, de manière à les publier telles quelles et à montrer que le martyr était bien mort pour la bonne cause, c'est-à-dire que lors de son interrogatoire, il avait bien répondu conformément, par exemple, à la doctrine de Calvin, sur la question de l'Eucharistie, par exemple, qu'il ne s'était pas trompé. Et la seule manière de vérifier que le message avait bien été porté jusqu'à l'extrémité, parce que c'est ça aussi qui fait le martyr, il faut porter cette parole jusqu'au bout, eh bien, cette vérité, elle résidait dans le procès. Alors, ce qui était absolument étonnant, c'est que c'est le bourreau, finalement, c'est la justice inique, enfin, du moins censée inique du point de vue de la victime, c'est le concours du bourreau qui est nécessaire. Le juge inique est en quelque sorte nécessaire, celui qui condamne pour hérésie, par exemple, est nécessaire à l'affirmation de la cause minoritaire, de la cause attaquée. Les protestants ont eu besoin, en quelque sorte, des bûchers, ce que David Elkins appelait les bûchers du roi, pendant la fin du règne de François Ier et tout le règne d'Henri II, une époque où on condamnait à mort, on jugeait, on condamnait à mort et on suppliciait les hérétiques. Ils ont eu besoin de ces bûchers pour manifester leur vérité contradictoirement à travers les preuves, finalement, que rassemblait l'adversaire contre eux. Mais les preuves qui étaient contre eux, finalement, étaient retournées par eux dans les martyrologes. Encore fallait-il qu'il y ait un procès. Et Agrippa d'Aubigné, plus tard, dans l'Histoire universelle et dans les tragiques, ne reconnaît le nom de martyr qu'à celui qui, bien sûr, a témoigné jusqu'à l'extrémité, jusqu'au bout, jusqu'à rendre le souffle, mais surtout à témoigner devant la justice et dont il y a un témoignage juridique attesté. Et en revanche, pour les martyrs de la Saint-Barthélemy, par exemple, ils refusent, Daubigné refuse aux victimes de la Saint-Barthélemy le nom de martyr parce qu'ils ont péri dans l'obscurité d'une nuit sans lune, sans qu'on sache de quoi ils sont morts, pour quelle cause exacte. Il y a des règlements de compte, et ils ne sont pas tous morts pour la foi, ce sont des victimes, des fidèles persécutés, c'est le titre que Daubigné leur applique, ils ne méritent pas le nom de martyr. Alors, cette distinction juridique très étroite qu'on retrouve apparemment chez Montaigne, hein, Montaigne qui appartient à l'autre camp, au camp catholique, bien sûr, elle est contestée dès cette époque-là. Et les auteurs de martyrologes, à une certaine époque, à partir de la Saint-Barthélemy précisément, au moment où la justice royale n'a plus le temps, en quelque sorte, de juger et d'exécuter un par un les martyrs, où on procède donc à des massacres de masse, quoi, à ce moment-là, le martyrologe de Crépin et Goulard décide d'associer aux martyrs donc exécutés par justice les anonymes, hein, tous les fidèles persécutés qui ont péri sans qu'on sache exactement par la main de qui et pourquoi exactement, hein, ont-ils blasphémé Dieu, au contraire, ont-ils cité les paroles du Christ lors de la Passion au moment de mourir. On n'en saura jamais rien, mais on les considère comme martyrs pour des raisons, disons, de commodité et aussi en vertu d'un sens de l'histoire qui ne peut que donner raison au terme aux fidèles. Hein, et ce nouveau martyrologe, évidemment, est orienté vers l'Apocalypse. Voilà ce qu'on peut ajouter très rapidement.
Oui, non, mais c'est très important de voir, effectivement, de se rappeler, en effet, que le témoignage est d'abord judiciaire.
Oui.
Et
c'était comme ça déjà, je ne suis pas un spécialiste de l'époque, mais les premiers martyrs chrétiens, hein, étaient déjà soumis à un appareil judiciaire. Et à cette époque-là, déjà aussi, on volait les pièces les pièces du procès dans les tribunaux. Et on les publiait. Parce que la publication, alors, l'idéal, hein, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est de publier telles quelles les pièces du procès. Hein, parce que c'est là que le martyr parle, s'exprime. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle, mais celui qui écrit, c'est le juge ou c'est le greffier du juge qui écrit sous la dictée, en quelque sorte, du martyr. Hein, c'est un peu une ruse de Dieu, en quelque sorte, contre le diable. Hein, où tout l'appareil déployé pour écraser, finalement, est retourné au service de celui qui est opprimé, selon un modèle qui vient naturellement de la Passion du Christ, hein, c'est le grand modèle.
Oui, la justice sert de greffier du martyr, hein, voilà. De la vérité de la religion. Jean Rouault, sur ce rapport du témoignage et de la justice et de la littérature.
En fait, il y a quand même une certaine confusion, c'est-à-dire qu'il y a le témoignage comme valeur historique, qu'on a beaucoup utilisé, dont s'est servi évidemment Lanzmann pour son film. Et puis, il y a ce témoignage sur lequel on s'appuie pour construire une œuvre littéraire, une œuvre poétique. Et on peut présenter Chateaubriand comme un témoin, mais il est évident que son propos, c'est de faire une œuvre littéraire et de se sauver lui en sauvant tous ceux qu'il va embarquer dans son grand œuvre, dans ses moines d'outre-tombe. J'ai donc écrit un livre qui reprend ce thème des vies là, dont vous parliez tout à l'heure, c'est le livre de la vie de mon père, et je l'ai appelé « Des hommes illustres ». Donc évidemment, en écho, la vie des Outou de César, etc., que vous avez évoqué. Et mon propos, c'était quoi? C'était pas de dire que mon père, c'était Jules César, c'était de poser comme principe que par la force poétique, on peut faire d'un être strictement anonyme qui, dans la vie, n'aura connu qu'un certain nombre de personnes et n'aura laissé qu'un certain nombre de souvenirs dans la trace de ces gens-là, dans la mémoire de ces gens-là, mais pas au-delà, que de cet homme-là, on peut faire un homme illustre uniquement par la force poétique. C'est-à-dire que il s'agissait moins de sauver la vie de cet homme-là, mon père, que moi, en profitant de cette mort, en la magnifiant, en la racontant sur le mode des vies des hommes illustres, en faisant de cet homme anonyme comme ça un homme illustre, j'expérimentais ce pouvoir du poète, ce pouvoir de l'écrivain, qui avait de fait la possibilité, par son écriture, de mettre cet homme anonyme en lumière, ce que veut dire illustre. Un homme illustre, c'est un homme dans la lumière. Donc le témoignage là est d'abord pour dire j'ai ce pouvoir d'illusionniste, de transformation d'une vie ordinaire en vie illustre, uniquement par la force poétique. Et dans les prenez les témoignages là de, on parlait de Germaine Tillion, qui effectivement, quand, avant d'aller à Ravensbrück, elle est ethnologue et elle a travaillé massivement sur les Touaregs. Et donc, quand elle sort de Ravensbrück, elle reprend comme si de rien n'était sur son métier d'ethnologue sur les Touaregs. Et ce n'est que tardivement qu'elle va écrire son livre à Ravensbrück, mais non pas en mettant son expérience de prisonnière et de son expérience des camps. Elle en profite pour porter un regard d'ethnologue sur les camps et elle nous livre une espèce de somme qui a ce mérite extraordinaire de nous mettre tous les événements comme ça et toutes les statistiques en résonance. Mais de temps en temps, elle s'avance timidement en disant « là, je suis obligée de parler de moi, mais c'est vraiment sur la pointe des pieds et elle n'est pas là pour ça ». Au lieu que si on prend les grandes œuvres poétiques des camps, que ce soit Primo Levi ou pour les Chalamov pour le Goulag ou Evgenia Ginzburg, là on est évidemment qu'au centre il y a ce corps souffrant, mais qui au final compose une œuvre poétique dans laquelle, à travers laquelle on peut reproduire un peu de cette souffrance vécue par ces gens-là. Donc on sort de l'aspect purement témoignage, purement scientifique, ce qu'a fait Germaine Tillion dans son Ravensbrück, pour s'approcher au plus près, par la force poétique, du ressenti. Et Primo Levi est chimiste, donc il a une formation évidemment de scientifique, donc ce qui n'est pas éloigné de l'expérience dont j'avais parlé l'autre jour, de Zola, qui s'inspire du biologiste Claude Bernard pour appliquer ses méthodes scientifiques au corps de la société. Hein, et donc, en tant que chimiste, Primo Levi est le premier cobaye de cette expérience extrême qu'est la concentration et Auschwitz. Et il va se prendre au jeu, et lorsqu'il écrit quelques années plus tard, 15 ans après, La Trêve, il est enivré de ce pouvoir poétique qu'il a découvert et quand je dis poétique, entendons-nous bien, c'est-à-dire de création, de recréation, en écrivant « Si c'est un homme ». Et dans La Trêve, il écrit des pages qui sont, il faut les lire, c'est un livre extraordinaire, La Trêve, et qui sont des pages d'ivresse poétique. C'est-à-dire qu'il va raconter, par exemple, donc La Trêve, ça se passe après les camps, c'est la sortie des camps, donc cette errance, comme ça, ils sont baladés à travers toute l'Europe par les Russes. Et il y a un exemple, il y a une espèce de Russe fou qui se met à raconter tout seul, comment il a pris tout seul un nid de mitrailleuse avec 5 ou 6 Allemands dedans. Et Primo Levi fait cet exercice de style où il nous décrit ce russe-là tout seul, mimant comment il saute dans la tranchée, comment il égorge les uns les autres et retourne la mitrailleuse contre les Allemands. C'est une page de pure littérature. Il va faire aussi, ils sont aussi dans un espèce de château avec les Russes et où il représente un spectacle. Et il va nous décrire ce spectacle-là. Et là aussi, c'est une expérience purement littéraire, purement poétique. Donc on voit comment, de ce témoignage premier, dans l'urgence, Primo Levi nous dit que c'est quelques mois qu'il a passé au camp. Il n'avait qu'une idée, c'était d'enregistrer tout pour pouvoir témoigner s'il en sortait. Et comment, dans cette urgence du témoignage, il devient écrivain. Et comment, devenu écrivain, il s'empare de cette puissance poétique pour écrire ce livre merveilleux qui est La Trêve et qui là, de fait, le place parmi les très, très grands écrivains en le sortant du strict témoin ayant raconté ce qu'il avait vu, souffert, éprouvé pendant ces quelques mois à Auschwitz. Donc c'est pour dire que le témoignage en soi n'a traversé le temps que parce qu'il avait cette valeur poétique. On n'a retenu de ces témoignages-là que ceux qui avaient cette plus-value poétique. Hein? Et Chateaubriand est extraordinaire pour ça, il connaît la puissance de son écriture, et il est Il est en la, bien sûr qu'il n'a pas fait la campagne de Russie, mais les pages de Chateaubriand sur la campagne de Russie, où il raconte ce grognard qui a survécu entre les deux passages du fleuve, à l'intérieur de la carcasse gelée d'un cheval, en se nourrissant comme ça sur le corps du cheval. C'est des pages, là aussi, hallucinées et hallucinantes, dont, évidemment, Chateaubriand n'a pas été le témoin. Donc, il profite de cette puissance de feu de son écriture, où parfois il est témoin, parfois il rencontre directement de ce qu'il a vu. On sait qu'il ment comme un arracheur de dents, ce qui fait que ça donne beaucoup de charme à son témoignage. Quand il rencontre Washington, donc lui, il n'est rien, évidemment, il n'est pas Chateaubriand, c'est un jeune homme comme ça qui a été envoyé par Malesherbes avec l'aide de. Et il a cette possibilité de rencontrer Washington, et il nous dit. Donc il rentre, Washington dans la pièce, Washington le salue d'un hello young fellow, c'est-à-dire salut mon gars, et il dit sur Washington, il est très ressemblant à son portrait. Voilà. Simplement, donc c'est quasiment un aveu, hein, donc il décrit le portrait de Washington. Simplement, il fait rentrer dans ce livre qui était censé parler de cette vieille Europe, il fait rentrer cet événement, à savoir la naissance des États-Unis, qui va bouleverser l'ordre du monde et décentrer cette vieille Europe, l'intérêt pour cette vieille Europe de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est-à-dire que à propos de Chateaubriand et Washington, les spécialistes se disputent toujours.
Hein, oui, non, mais ça, c'est.
Mais
pour un écrivain, cette phrase-là, oui. il ressemble à son portrait, c'est un aveu.
Mais vous avez raison de dire, il n'avait pas besoin de voir Washington pour écrire la page dont on se souviendra sur Washington. Est frappant dans le cas du témoignage de Primo Levi ou de Robert Antelme, c'est qu'au moment de leur première publication, ils ont été un petit peu submergés dans la foule des témoignages qui ont été produits à la même date, et que c'est seulement 10 ans ou 15 ans après qu'ils ont été réédités en raison de leur qualité littéraire. C'est-à-dire qu'il y a aussi un rôle de la littérature et il y a un rôle du temps.
Et juste pour continuer là-dessus, il s'est publié ces dernières années énormément de témoignages sur les camps de personnes en fin de vie comme ça. Et j'en ai lu pas mal, et dont un grand professeur de médecine qui était passé par Auschwitz. Et c'est très décevant parce qu'il nous expédie Auschwitz en 10 pages. Et en revanche, toute sa carrière, qui compte évidemment beaucoup plus pour lui, pour devenir un grand médecin, qui nous intéresse un peu moins, prend toute la place, alors que ce témoignage-là d'Auschwitz, où il est dans les mines, là où on voudrait descendre avec lui, eh bien, on n'y descend pas parce qu'il n'y a pas cette force de percussion comme ça de la poésie et de la littérature.
C'est ce que Pérec disait à propos d'un certain nombre de témoignages, notamment celui d'Antelme. C'est toute cette ambiguïté de la littérature qui fait que, en même temps, elle transforme et en même temps, cette transformation est indispensable pour sauver. Jean-Louis,
oui. Moi, j'aurais une approche un tout petit peu différente parce que la question que je me pose est plutôt celle de la délimitation chronologique de ce dont on parle, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du témoignage. Et c'est une question très difficile. Dans tout ce qu'on vient de dire, on peut repérer qu'on parle successivement de choses très différentes. On parle soit d'une posture, par exemple le martyr, et qui là est chronologiquement non situable, qui peut se retrouver à n'importe quelle époque, elle se définit par des critères thématiques, religieux, tout ce qu'on veut. On parle aussi d'un acte d'énonciation qui peut se retrouver dans toute une série de textes, comme chez Chateaubriand à certains moments, même si le genre général, enfin le genre du texte dans lequel il s'inscrit est différent, ça peut être un roman, des mémoires, etc. Et puis on parle parfois d'un genre au sens strict, et là, c'est beaucoup plus difficile de savoir de quoi on parle. Là, c'est chronologiquement limité. Alors, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer dans la conférence que j'avais faite, mais je me suis rendu compte que ça passait pas, enfin que ça, c'était pas. Je m'en suis rendu compte en fait en regardant, comme tout le monde, peut-être, je sais pas, le site, le blog de quelqu'un qui s'appelle Sejean, qui publie à chaque fois, c'est très intéressant, publie à chaque fois des comptes rendus des interventions qui sont faites. Et c'était intéressant pour moi parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui passe d'une intervention qu'on fait. Et là, on avait une sorte de super auditeur qui retranscrivait ce qu'il avait écrit. Donc c'était une expérience intéressante. Et je me suis aperçu qu'en réalité, l'idée que je croyais être l'idée force de mon intervention n'était pas passée. Ce qui était... Non pas la faute de l'auditeur, à mon avis, qui est vraiment un auditeur entraîné, qui prend en note tout, etc. Même s'il peut avoir la dent un peu dure, parfois. ça, c'est autre chose. Il a le droit. C'est que simplement, cette question de l'importance chronologique ne passait pas bien. Alors, pour une raison qui tient au fait que on a une vision déformée de ce qu'on pourrait appeler les égo-histoires, les récits égo-historiques. Les récits égo-historiques, c'est tous les récits dans lesquels un individu se raconte dans sa condition historique. Et ça peut prendre différentes formes, la forme du journal à certaines époques, la forme des mémoires pendant très longtemps en France, et puis la forme du témoignage aujourd'hui. Mais il me semble que le succès du témoignage et le fait qu'on définisse aujourd'hui le genre du témoignage en fonction de la Shoah, essentiellement, doit être en partie remis en cause parce que c'est quelque chose qui correspond à notre sensibilité contemporaine, qui est à mon avis extrêmement, enfin qui est formée aussi par les attentes des historiens, par les événements médiatiques qui sont les nôtres, par les affaires politiques qui sont les nôtres. Il y a un moment d'une sorte de, il y a eu une résurgence de toute une mémoire juive, il y a eu toute une sorte de culpabilité nationale française liée à l'expérience de la Shoah et de l'occupation, qui a ressurgi, qui a fait débat. Bon, il y a toute une série d'éléments comme ça, de facteurs qui font qu'il y a un moment témoignage et que le témoignage se définit en fonction de ça. Mais en réalité, il y a d'autres corpus qui sont négligés. Si on prend le corpus, j'en ai parlé rapidement, mais c'est un corpus que je trouve très intéressant, c'est celui des guerres d'Indochine et de l'Algérie. Ce sont deux guerres qui se succèdent d'une certaine manière. Ceux qui ont fait l'Algérie avaient pour beaucoup déjà fait l'Indochine, en tout cas les militaires de carrière. Et la rancœur, la force de la position, la violence de la position qui a été ceux qui ont défendu, qui sont engagés dans l'Algérie française, enfin dans l'OAS ensuite, vient du fait que la déception venait déjà de la guerre d'Indochine. Or, beaucoup d'entre eux ont écrit des témoignages. Et c'est l'un des rares exemples de littérature de témoignage au sens strict générique du terme, où les deux camps se soient exprimés à peu près à égalité. On a peu de mémoires et de témoignages de nazis. En revanche, dans le cas de la guerre d'Algérie, non pas que je compare, évidemment, ça n'a rien à voir, on s'entend bien. En tout cas, dans le cas de la guerre d'Algérie, les personnes engagées dans le camp de l'OAS ont beaucoup écrit leurs témoignages, ont beaucoup publié, à plusieurs reprises pour certains généraux, et de la même manière pour ceux qui défendaient, bien sûr, comme la question d'Alègue ou d'autres. Donc c'est un corpus qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant, et qu'on ne prend jamais en compte. Parce que la mémoire nationale n'est peut-être pas prête à le traiter, parce que, voilà. Donc ces questions de définition générique me semblent très importantes, parce que, en fonction de la manière dont on comprend les récits égo-historiques, c'est-à-dire en fonction de la manière dont on pense... Quel récit, quel type de récit disent légitimement ce qui, en dehors des récits faits par les spécialistes, les historiens, quel type de récit disent légitimement ce qui a été l'histoire, notre histoire, à chaud. On a des corpus tout à fait différents et des formes de textes qui disent d'autres choses. Le témoignage est dominante, se définit par des caractéristiques de type éthique, alors que les mémoires se définissent par des caractéristiques de type politique. Ils disent comment vivre ensemble, comment s'entendre sur des choses qui ont été vécues ensemble. Ce n'est pas du tout le cas du témoignage. Donc les corpus sont différents, l'histoire livrée est différente, ce qu'on en dit, ce qu'on en pense, la façon dont on la traite, et la posture qui est celle de celui qui la raconte et qui a légitimité à la raconter est différente à chaque fois. Donc ces questions d'ordre qui peuvent paraître un peu de spécialistes, d'ordre de poétique et de délimitation chronologique des termes qu'on emploie et des genres dont on parle, est importante, à mon avis, pour comprendre ce qui fait histoire aujourd'hui ou ce que l'on reçoit habituellement comme histoire. Et il y a des corpus très, très émergents, comme ça, la Première Guerre mondiale, et puis la Shoah ou d'autres, et puis il y a des corpus qui disparaissent, qui sont négligés, qui attendent de faire retour, parce qu'ils ne correspondent pas bien aux définitions qu'on a ou qu'on se fait du terme témoignage. Donc c'est un terme qui me semble... peut-être plus piège qui ne peut en avoir l'air au départ, ne serait-ce que parce qu'on ne sait jamais très bien si on parle d'un acte d'énonciation, le fait de témoigner au sens quasi juridique, si on parle d'une sorte de thématique, parler de la violence faite au corps, etc., ou si l'on parle vraiment d'une sorte de genre plus circonscrit, plus délimité, chronologiquement et thématiquement.
Voilà. Et ces textes sur la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie, s'appellent-ils eux-mêmes témoignages ?
Non, alors, oui, certains le sont très très clairement. En général, ce qui est très intéressant, c'est que dans le camp des généraux, ils les appellent mémoires, parce que c'est le genre attesté. Le témoignage n'existe pas pour les généraux qui ont une formation classique, etc. Et ils les appellent très clairement mémoires, en faisant référence d'ailleurs aux mémorialistes classiques. Ils se pensent en général exactement dans la lignée de tous les mémorialistes des guerres de religion, 16e siècle, 17e siècle, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été les oubliés de l'histoire nationale. Voilà, Montluc, des gens comme ça, qui ont combattu pour la France et à qui la France n'a pas rendu les hommages qui étaient dus aux soldats qui ont versé ou risqué leur vie pour eux. Donc ils se situent, eux, mentalement, dans cette tradition qui est une tradition militaire d'origine, etc. Alors que, assez clairement, leur genre, enfin leur texte, relève plutôt, on le classerait plutôt, nous, aujourd'hui, du côté du témoignage.
Mais y a-t-il beaucoup pour la... Enfin, ça, je ne le sais pas, mais y a-t-il pour les guerres coloniales le même type de corpus immense qui est apparu pour la guerre de 14?
Alors là, oui,
c'est quand même cette... On en parlait avec vous l'autre jour. C'est quand même, c'est quand même la littérature qui a suivi la guerre de 14-18 qui a profondément bouleversé toutes ces questions. Ouais. Parce qu'elle est immense, parce que cette guerre a duré longtemps, parce que ce sont des gens plus âgés qui y sont allés parce qu'ils avaient reçu, parce qu'ils étaient passés par l'école de Jules Ferry, donc il y a là...
Et parce qu'il y a de grandes œuvres.
Et parce qu'il y a de grandes
œuvres. Peut-être pas le cas des généraux de Saint-Cyr.
C'est ça, on peut... Non, mais c'était pas fait par des généraux.
Non, mais justement, je parlais de pour la Chine.
A-t-on des romans de la guerre d'Algérie, de l'Indochine qui...
Il y a le livre de Guyotat sur les tombeaux pour 300 000 soldats.
Oui, de Roy.
Pour l'Indochine, il y a Jules Roy.
Il y a Jules Roy. Il y a
mais c'est vrai que en plus, contrairement à la Première Guerre et à la Seconde Guerre, c'était des guerres lointaines. Et que tous les témoins, à chaque fois qu'ils reviennent, en général, se taisent, s'enferment dans un mutisme, ne veulent pas témoigner, ne peuvent pas témoigner, parce que souvent, ce qu'ils ont connu, c'était des choses horribles. Et le premier souci, comme pour les survivants des camps, ça a été d'oublier, d'essayer de s'enivrer, de passer à autre chose. Mais pour ce qui est de cette dimension, de ce conflit entre le témoignage et la dimension esthétique, la dimension de création. J'étais aux États-Unis à une université qui s'appelle Norman, c'est près d'Oklahoma City, et j'ai appris qu'il y avait un musée des cowboys là-bas. Alors évidemment, j'ai demandé à le voir, et il y a plusieurs salles de tableaux absolument magnifiques sur la fin de la civilisation indienne, qui s'écroule très vite là, entre 1875 et 1910-1915. Ce sont des tableaux magnifiques qui inscrivent dans un paysage somptueux qui est celui des rocheuses ou des grandes plaines ou de lieux très forts comme ça, des tribus, des Indiens isolés dont on sait qu'ils vont disparaître. Et ces peintres-là qui vont partir sur cette frontière qui est en train de s'effondrer pour les nations indiennes, à partir de 1875-1880, lorsque les territoires sont pacifiés de la manière que l'on sait, pour eux, il y a une urgence qui est de témoigner. Il n'y a pour témoigner que la photographie. Curtis va le faire, mais quelques années après, et ce sont des photos en noir et blanc figées. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir prendre une scène de danse, par exemple, de danse indienne, ou ces colonnes d'Indiens circulant à cheval dans la montagne. Donc, ils ont une urgence première, qui est de témoigner. Ce sont des grands tableaux, encore une fois, d'une facture fantastique, avec des couleurs vives. On est dans une modernité de la peinture, mais en même temps, on sait qu'en France, là, c'est toute cette période où on va se défaire de la représentation du monde, où le tableau va dématérialiser la représentation du monde. On va avec, on sait que Kandinsky a eu la révélation de l'abstraction devant les meules de Monet, et ce sont des tableaux là qui vont être contemporains des débuts de Kandinsky, qui vont être contemporains de Demoiselles d'Avignon, et eux ne peuvent pas aller vers cette dématérialisation parce qu'à ce moment-là, ils perdraient leur valeur de témoignage. Donc, ce sont des peintres qui s'engagent dans une espèce de mission dont on ne fait aucun cas, bien sûr. Personne ne fait cas de Remington ou de Farny, qui sont pourtant de très grands peintres, tout simplement parce qu'ils ont refusé ce pacte que passait la modernité, à savoir la toile ne va plus rendre compte du monde. Elle va s'engager dans cette recherche où elle va dialoguer avec elle-même, avec la couleur, avec l'espace, etc., mais pas en perdant cette mission qui lui a été assignée depuis très très longtemps, de rendre compte de ce que du monde, de l'état des choses. Et ces peintres qui sont engagés dans cette course contre la montre, parce que ce monde-là va disparaître très vite, partent avec vraiment à cheval, avec les carrioles, etc., pour enregistrer cette fin du monde qui, sans eux, aurait complètement disparu. Et toute cette imagerie-là, c'est étonnant quand on voit tous ces tableaux, c'est celle des westerns. C'est-à-dire que les westerns, les gens qui ont réalisé les westerns, n'ont eu qu'à piocher dans ces tableaux-là pour littéralement reproduire quasiment, tableau par tableau, les peintures de Farny, Remington, etc. Donc, pour ces gens-là, et en plus, Remington était venu en France, il avait été dans l'Académie française dans les années 1870, il avait même été élève de ces peintres qui avaient accompagné les armées françaises en 70, là, De Taille et c'est plus... Hein. Et il est saisi par une urgence qui fait que même si fondamentalement il a un désir de peindre, il sait qu'il va passer à côté de l'histoire de la peinture parce qu'il y a plus urgent pour lui, c'est de témoigner de ce monde qui va disparaître et qui sans lui, effectivement, sombrerait pour toujours dans l'oubli.
Est-ce qu'on ne trouverait pas dans l'Orient, vous citiez De Taille ou d'autres peintres de la fin du XIXe siècle français, on pourrait trouver peut-être dans l'orientalisme ou dans la...
Sans doute.
Dans le même type de représentation de...
En urgence, oui.
C'est dans l'urgence.
Où on ne peut pas se permettre les artifices de l'évolution artistique, de la modernité artistique. Oui.
Je pensais à ce propos aux peintures aussi brésiliennes des artistes français du XIXe siècle, Debray, ou bien quelqu'un comme Rügen Das, qui ont peint les derniers Indiens, enfin les tribus indiennes encore libres, et qui ont laissé des témoignages tout à fait émouvants. Et ça renvoie peut-être aussi au témoignage de l'ethnographe, enfin, ce que vous dites là. Hein, quelqu'un comme Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, a laissé des photos, et dans Saudades do Brasil, un de ses derniers livres, a laissé des photos qui témoignent déjà d'une société morte et dont il ne subsiste plus que l'apparence dans ces photos merveilleuses en noir et blanc.
Et on sait en plus que Lévi-Strauss voulait faire de son expérience un roman, que Triste Tropique... D'abord, c'est un titre de romancier. Mmh. Et la première phrase, c'est une phrase de romancier. Je vais les voyages, etc. Et il s'est aperçu, donc on est au milieu des années 50, que le roman, à ce moment-là, n'est plus possible, est passé par l'ère du soupçon et tout ce qu'on a raconté la dernière fois. Et donc, il s'engage dans un processus de scientifique à travers lequel il va raconter ce qu'il avait auparavant envisagé de raconter sous la forme romanesque.
D'où les difficultés du jury du prix Goncourt, qui aurait voulu lui donner le prix Goncourt. Mais...
Pas Triste Tropique ?
Oui.
Ah oui.
Mais le règlement précise que ce doit être pour une œuvre de fiction. De fiction.
Enfin, Lévi-Strauss s'en est bien sorti quand même.
J'emploie un néologisme, une œuvre d'invention. L'expression est une œuvre d'invention.
Oui, là, ça ramène encore un corps souffrant aussi, celui du voyageur. Enfin, à travers Lévi-Strauss, je pense un petit peu à Jean de Léry, que Lévi-Strauss a imité dans Triste Tropique, que Lévi-Strauss considérait comme le bréviaire du voyageur, hein, l'histoire d'un voyage frontière du Brésil étant le bréviaire du voyageur. Et ce livre du XVIe siècle, qui est en quelque sorte en palimpseste de Triste Tropique, que Lévi-Strauss a suivi un peu dans son déroulement, est à la fois un témoignage sur la mort de l'autre, sur la perte des Indiens. Déjà au XVIe siècle, on prédisait la mort des Indiens dans ce texte qui relate l'échec colonial des Français au Brésil en 1555-1560. Et d'autre part, le témoin qui va devenir ensuite pasteur, envisage sa propre mort à travers celle des autres, et cette mort est suivie pour lui d'une résurrection à travers l'écriture et le témoignage. Et là, il y a une sorte d'échange entre la mort de soi et la mort de l'autre, et l'écrivain naît en quelque sorte de la mort du voyageur, et de la mort aussi des peuples qu'il a considérés et qu'il a peint avec une force et aussi un talent littéraire tout à fait extraordinaire.
Dans cette littérature monde dont on parle maintenant un petit peu avec vous, notamment, est-ce que on peut donner le sens de monde que vous venez de donner dans notre dernière intervention, hein, c'est-à-dire de volonté de porter témoignage du monde.
C'est
tout à fait le sens que j'avais cru, mais
c'est juste. Il est évident que les écrivains d'origine africaine, personne qu'eux ne témoigneront de cette enfance qu'ils ont vécue en Côte d'Ivoire, etc. Et que du coup, nos querelles byzantines autour de la forme, de la structure et de la littérature et de l'aventure de la phrase, ces querelles-là ne peuvent sembler un peu... c'est byzant, c'est pour eux l'urgence, c'est effectivement de témoigner, personne ne témoignera à leur place. Et on était l'autre jour avec Mabankou, Azouz Begag et Abdourahmane Waberi, et ils étaient tous les trois sur le plateau, et l'animateur, évidemment, ils en avaient parlé avant, leur dit, il y a quelque chose qui vous réunit tous les trois, c'est que tous les trois, vos parents étaient analphabètes. Et donc, il y avait ces trois hommes, avec des œuvres importantes, des écrivains de haute volée qui venaient de cet endroit où l'écriture n'existait pas. Il est évident que ce genre de témoignage-là, depuis Jules Ferry, justement, c'est quelque chose d'assez impensable ici, et que eux, dans l'urgence où ils sont, dans cette première ligne où ils sont, d'être les premiers à pouvoir témoigner, ils ne vont d'une certaine manière pas gâcher cette chance de pouvoir témoigner en se lançant dans des querelles purement formelles ou formalistes.
Oui, mais en même temps, vous soulignez que le témoignage, le vrai témoignage, c'est un témoignage littéraire.
C'est un témoignage poétique. C'est évident que...
Il y a cette tension... Voilà. Qui est constitutive de...
Et le témoignage non littéraire ne peut avoir ne peut surgir que s'il s'appuie sur un événement extraordinairement dramatique. Il n'y aura pas... Dieu sait si y a des grandes difficultés en Afrique, mais s'il n'y a pas derrière une famine extraordinaire ou un génocide extraordinaire, on n'ira pas demander aux gens de témoigner. Donc, ce que font ces auteurs que j'ai cités, c'est de témoigner directement pour des choses qui, de toute façon, n'étaient pas suffisamment tragiques pour intéresser le témoignage brut.
Au fond, la tension qu'on a bien marquée, je crois, aujourd'hui, c'est celle de ce témoignage sur lequel avait insisté un certain nombre des conférenciers, sur le témoignage comme incarnation et le témoignage comme autre forme d'incarnation qu'est la littérature. La griffe du témoignage comme aphasie ou comme mutisme, ainsi qu'on le voit dans un certain nombre de dans dans le film Shoah, que nous a montré à la fois Lanzmann et Rancière, puisqu'ils nous ont montré des moments très voisins d'aphasie dans le film. Et le témoignage dans sa qualité littéraire, qui est le seul qui subsiste une fois que les autres sont passés.
Qui traverse.
Comment ?
Qui traverse.
Qui traverse. Traverse.
Oui, témoignage permet de continuer une présence, oui. Hein, par-delà la mort. Oui. Une sorte d'hallucination. Dans un des cas que j'évoquais, d'Aubigné, par exemple, qui est à la fois donc, témoin des guerres de religion, il écrit une histoire universelle qui n'a pas de qualité littéraire extraordinaire, mais parallèlement, il écrit des tragiques. Et là, en relisant la Bible, en la réinterprétant, en la variant, en écrivant à partir d'elle, en paraphrasant des psaumes, par exemple, il confère à son témoignage particulier de compagnon des martyrs une sorte de valeur pérenne et de force qui peut traverser les générations. Mais là, on rejoint peut-être aussi le problème de l'horizon d'attente. Enfin, ce témoignage n'a pas été pris au sérieux par les contemporains, sauf par le petit clan, mais c'est seulement à l'époque romantique, au moment où on a réécrit l'histoire de France, une histoire de France qui accablait en quelque sorte les derniers Valois et qui accablait l'Église catholique. C'est à ce moment-là qu'on a pu retrouver en quelque sorte cette valeur de témoignage qui était enfouie depuis plusieurs siècles.
Donc les témoignages que vous jugez laissés pour compte aujourd'hui...
On rend toute chance. Oui, et je ne pense pas que la question de la valeur littéraire de ces textes-là soit préjugeable, enfin, on ne peut pas l'estimer. Ils ne sont pas vraiment lus. Et il se peut très bien qu'on découvre des textes, comme ça a été le cas pour les textes de la Première Guerre mondiale. D'emblée, ils n'ont pas été perçus comme éminemment littéraires, sauf les romans précisément. Il a fallu quand même très très longtemps et tout un horizon d'attente pour que certains textes jugés bruts soient reçus comme des correspondances, des journaux. Donc, là aussi, la question de la littérarité est très très mouvante et change beaucoup dans ces termes et dans ces définitions, dans ces modes de perception.
Sinon, on peut peut-être dire que les témoignages de ces dernières guerres, comme vous les évoquiez, ont pris la forme de films.
Souvent, oui.
C'est parce qu'on avait du mal à en évoquer tout
mais
à l'heure.
Là aussi,
c'est vrai que c'est sur la guerre d'Indochine,
la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie ont donné lieu à un certain nombre de films, ou la guerre du Vietnam ont donné lieu à un certain nombre de grands films.
De grands films et qui bizarrement n'ont pas été si bien perçus pour la plupart. Un film comme par exemple La Bataille d'Alger est un film qui n'a pas vraiment, alors que c'est un grand film, qui d'ailleurs ressort juste en ce moment, enfin est republié, rediffusé, une édition DVD, une très bonne édition DVD. C'est pas un film qui a eu la place qu'on aurait pu attendre. Et bizarrement, il y a eu peut-être le même effet que celui dont parlait Jean Rouault pour ces textes-là, de mise entre parenthèses de ce corpus, alors qu'il y a quand même eu plus de grands films apparemment que de grands livres sur ces deux guerres. Mais je ne sais pas si là non plus ils ont été très, très bien entendus ou très bien reçus.
Il y a eu quand même une mythification de la guerre d'Indochine à travers les films de Schindler tout de même.
Oui,
je crois que c'est.
Qui a créé une imagerie assez forte en plus.
Oui, j'ai quand même l'impression que c'est par le film qu'est passée cette forme de témoignage.
Oui, je suis d'accord.
Dans cette période. On va peut-être arrêter là notre discussion en vous remerciant d'être...
On nous a dit qu'on était les martyrs de compagnons, les compagnons du martyr.